Voix d'Église, l'actualité protestante en région Cévennes, Languedoc, Roussillon.
Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Voix d'Église. Aujourd'hui, autour de notre plateau, encore virtuel et au micro, Guylaine Dubois de FM Plus Montpellier. Bonjour Guylaine. Joël Baumann et Christian Delors d'Alliance Plus à Nîmes.
Bonjour.
Bonjour. Laurent Keller et Delhi Miller de RGO à Alès. Et bien sûr, Nicolas Moutier, rédacteur du journal Le CEP.
Bonjour à tous.
Alors, pour notre émission, nous nous appuyons toujours sur le dossier du CEP. Et ce mois-ci, nous allons parler jardin. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots du dossier de ce mois-ci, les jardins, notre paradis sur Terre?
Alors, qu'ils soient potagers ou d'agrément, lieux de sociabilité et d'échange ou de solitude et de méditation, enjeux de travail et d'effort ou de calme et de repos, les jardins sont omniprésents dans la vie des humains. Pas étonnant qu'on les retrouve à travers toute la Bible, des débuts de l'humanité jusqu'aux promesses de salut d'un monde nouveau. Il nous faut sans cesse les entretenir et les préserver. Ils nous offrent la beauté et la nourriture et nous apprennent la transmission et la patience.
Merci Nicolas. Donc, pour alimenter notre débat, voilà, nous nous appuyons toujours sur des témoignages. Et Guylaine, toi, tu as eu un premier témoignage. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît?
Oui, bonjour à tous. Donc, je me suis appuyée finalement sur un des rédacteurs du dossier, le pasteur Alain Pellissier, qui témoigne de son goût pour le jardin. Alors, en nous disant bien que ce n'est pas que c'est parce qu'il était enfant attentif au jardin qu'il est maintenant en tant que pasteur revenu à cette pratique qui lui sert aussi de support biblique et théologique.
Alain Pellissier, pasteur à Saint-Chamond dans la Loire, évoque son rapport au jardin.
Initialement, je ne me suis pas vraiment intéressé au jardin parce que j'étais pasteur. Je me suis intéressé au jardin parce que c'était une tradition familiale et puis parce que les voisins autour du lieu où j'habitais avaient tous un jardin. Et assez rapidement, j'ai trouvé que ce lieu était extrêmement agréable. Et puis effectivement, par la suite, avec les études de théologie, puis le ministère de pasteur, j'ai vu un lien, mais qui n'était pas évident tout au début. Le lien est facile, me semble-t-il, enfin, devient évident lorsqu'on devient jardinier, c'est que eh bien, on n'est pas grand-chose sur la terre à la fois. C'est vraiment un lieu où on est heureux parce qu'on est un peu coupé d'autres interrogations, d'autres préoccupations. Et puis, on s'aperçoit que vraiment, on n'est pas grand-chose parce que la récolte n'est jamais certaine.
La terre est un sujet d'émerveillement pour Alain Pellissier.
C'est paradoxal, la terre, hein, parce qu'on la reçoit comme cadeau, et c'est assez formidable parce que la germination est vraiment un processus incroyable que l'on comprend aujourd'hui scientifiquement, mais en fait, c'est toujours étonnant de voir une toute petite graine qui arrive à faire quelque chose de fabuleux. Donc c'est un don, mais en même temps, eh bien, il peut y avoir tout un tas d'aléas climatiques ou quelques animaux qui passent par là, qui font que, eh bien, on n'est pas tout à fait assez fin. Et donc, il y a à la fois une grande force, un beau don, et puis, ce don, eh bien, il faut vraiment le préserver. On lit l'Ancien Testament, il y a bien cette nécessité de préserver son jardin.
L'expérience du jardin est aussi un support pour l'enseignement biblique et théologique porté par les synodes.
Ça fera partie à un moment ou un autre de l'enseignement, soit dans les prédications, soit avec des catéchumènes. Dans les prédications, d'autant que notre Église va travailler au niveau synodal sur l'écologie, la crise écologique, et il y a beaucoup de choses. Hein. Notre Église s'est engagée depuis finalement quand même pas mal de temps. Le premier acte synodal, c'est le synode de la montagne du Tarn, c'était en 1967. Et donc, on a quand même une tradition, même si elle n'était pas forte, mais elle était réelle pour plusieurs membres de nos Églises à questionner ce rapport à la terre, notamment le fait de la gaspiller. Entre le synode Et puis ici, je suis à Saint-Chamond, c'est plutôt une ville, enfin ça a été une ville ouvrière, donc il y a des jardins ouvriers, et là, et qui aujourd'hui, enfin comme j'imagine de partout ailleurs, vraiment explose. Il y a un intérêt aujourd'hui, un regain pour le jardin, et bien on ira voir les jardins ouvriers et discuter un peu avec celles et ceux qui s'en occupent et qui ont vraisemblablement beaucoup de choses à dire, parce que la qualité, si j'ose dire, du jardin et du jardinier, c'est que on peut dire les choses extrêmement simples, mais ces choses extrêmement simples sont en même temps très profondes.
Merci Alain Pellissier.
De retour dans Voix d'Église, après avoir entendu Alain Pellissier, pasteur à Saint-Chamond-sur-Loire. Alors, il y a été question d'enseignement, il y a été question de semences, et effectivement, dans les textes bibliques, il est souvent question d'un enseignement dans un jardin, et il est souvent question de semer. Est-ce que les jardins sont un modèle en miniature des enseignements que le message biblique nous incite à avoir? Guylaine Dubois, que diriez-vous alors après cet entretien avec Alain Pellissier?
Bon, j'ai bien aimé le lien qu'il fait avec la démarche de l'Église protestante unie par rapport aux soucis écologiques. Je trouve aux soucis écologiques et aux soucis de l'Église verte aujourd'hui. Après, la question que vous posez, Laurence, moi, je ferais plutôt un grand pas vers la question du jardin interreligieux. Une expérience que j'ai vue se faire en Alsace et que j'ai trouvée intéressante pour donner à voir, à sentir tout ce que propose la Bible finalement à travers ses écrits, et aller comme ça à pouvoir s'imprégner avec nos sens de ce que ça pouvait être qu'un environnement des plantes et des lieux et des fleurs, voilà, tout ce qu'on peut trouver comme dans la Bible, et qui est en Alsace particulièrement. Je crois qu'il y a 5 ou 6 jardins interreligieux à Saverne, à Strasbourg, qui témoignent d'un partage sensoriel avec les autres religions. Je n'ai pas dû répondre à la question, Laurent, mais...
Mais vous avez introduit la question de la sensibilité, de l'émotion également, qui est en effet dans le dossier du CEP, qui est présente et qui est parfois ce qui peut manquer à nos contemporains, c'est de se laisser aller parfois à ces émotions et à recevoir ces émotions dans un jardin, dans un parc, dans la nature. L'année que nous venons de passer, nous enfermer souvent, nous a rappelé que c'était assez important. Joël Baumann pour Alliance Plus, est-ce que vous êtes sensible à ces émotions?
Alors, je suis très sensible aux émotions qu'on peut avoir dans un jardin, mais je suis très, 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 très mauvais. J'ai une épouse qui a la main verte, mais moi, absolument pas. Mais quand même, hier, j'ai planté un cerisier. Et donc, je vois dans ces agissements, dans ces actes, des gestes d'espérance quand même. Planter un arbre, c'est quelqu'un, hein, Martin Luther, qui disait que même à la fin de sa vie, il continuerait à planter un arbre. Hein. Je ne sais plus dans le texte exactement comment il le disait, mais pour lui, signe d'espérance, même jusqu'à la mort. Donc voilà, moi je suis là à regarder la nature. Il y a plein de une symbolique intéressante aussi de voir une nature qui se développe toute seule sans qu'on la touche ou très peu. La Bible, les évangiles par exemple en font écho de cette nature qui se passe de nous à un certain moment, et donc je vois ça, oui, moi, pour moi la nature c'est l'espérance d'abord.
Oui, moi je voudrais intervenir là par rapport à ce qu'a dit Guylaine, où j'aurais pas du tout Enfin, voilà, je ne connaissais pas hein, ces expériences interreligieuses. Et avec Joël qui parle de l'arbre, et du coup, ça me fait penser à tous ces arbres de la paix, en fait, qu'on plante régulièrement, alors que ça soit dans des, voilà, que ça soit des villes qui fassent ça, avec des écoles, avec, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau de nos églises aussi, en interreligieux, particulièrement lors de périodes un petit peu tragiques, il y a eu beaucoup de manifestations de ce genre-là. Et l'olivier, hein, bon, voilà, pour reprendre, c'est souvent l'arbre qui est planté. Et du coup, voilà, c'est ce que vous avez dit tous les deux me fait un petit peu penser à ça, mêlant à la fois l'interreligieux et puis ce jardin, cet arbre de la paix, l'olivier, avec tout ce que ça peut représenter derrière.
Et est-ce que le soin apporté à ces plantations est suivi? Est-ce que vous voyez les groupes régulièrement se réunir autour de ces arbres ou autour de ces jardins partagés, de ces jardins qui ont eu un moment un symbole fort et vers lesquels on peut se retourner chaque année régulièrement, sur les arbres autour de la paix, par exemple?
Nicolas Boutier.
Oui, je sais. Non, mais je sais qu'à Montpellier, il y a un arbre qui a été planté interreligieux. Je pense qu'il a été planté devant le conseil général départemental, pardon, excusez-moi. Et chaque année, il y avait des manifestations qui se regroupaient, c'est-à-dire autour de cet arbre. Voilà, c'était le lieu de rendez-vous de toutes ces communautés. Et dans le dossier d'ailleurs, on a un article hein, sur le jardin de la paix à Beauvais, qui est un lieu aussi interreligieux. Et continuellement, les différentes églises se retrouvent là, aux confessions, à la fois pour l'entretenir et pour regarder et admirer le jardin dans toutes les étapes des saisons.
Délie Muller.
Moi, je voudrais rajouter. Je ne sais pas si on peut considérer la forêt comme un jardin, mais oui, la forêt est aussi un grand jardin avec les arbres. Et c'est vrai que dans notre région, quand même, on a aussi beaucoup de lieux de rassemblement. Je pense au musée du désert, hein, sous les arbres, effectivement, ça c'est le grand rassemblement. Mais on peut parler aussi de celui sur l'Écosse.
La Cande Hospitalet.
La Cande Hospitalet aussi, hein, où finalement il y a ce culte en commun, ces repas partagés sous les arbres, dans cet espace de verdure, avec, pour reprendre un petit peu une des premières paroles d'Alain Pélissier dans son témoignage, c'est un lieu où on est heureux, mais où on n'est pas grand-chose. Et finalement, où on est confronté à ce qui est plus grand que nous, tout en étant, on n'est pas grand-chose, mais on est quand même avec les autres, et on est quand même, finalement, c'est là qu'on se sent petit, mais grand et fort dans notre foi. Ça raffermit aussi notre foi d'être dans cette tranquillité.
Nicolas Boutier.
C'est exactement ce qui se vit chez les sœurs de Pomerol, où elles ont un lieu planté de cyprès et elles parlent de leur église sous les cyprès, en fait. Et donc, c'est à la fois un lieu d'accueil, un lieu de recueillement, un lieu de prière, un lieu de cérémonie, voilà. qui est dans la nature, en pleine nature.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée.
Vous écoutez l'émission Voix d'Église sur vos radios RGO, Alliance Plus et FM Plus.
Peut-être une dernière question avant d'écouter notre deuxième témoignage ou une dernière intervention, Christian.
Oui, moi, ce que je voulais dire, ce qui me frappe surtout, c'est dans le texte de ce pasteur, c'est la croissance. Je trouve ce thème de la croissance qui apparaît si souvent dans la Bible. Rappelez-vous la graine de Sénévé qui devient un grand arbre, les paroles de Paul, quelqu'un a semé, quelqu'un a arrosé. Enfin, il y a tout un travail et qui permet la croissance. La croissance, qu'est-ce que c'est? La croissance de l'Évangile en soi ou dans le monde. Ou, enfin, voilà, il y a tout ce thème qui me paraît important.
Voilà, ben écoute, merci Christian, je te laisse la parole pour aller plus loin dans notre débat, d'écouter le deuxième témoignage que tu as eu, je crois.
Bien, on a notre ancien président du conseil presbytéral, Bernard Cavalier, à un jardin chez lui. Alors j'ai pensé spontanément à lui parce que je sais qu'il aime beaucoup jardiner. Et puis, tout à coup, je me suis souvenu aussi qu'il avait lancé une opération importante au cimetière protestant, qui est un immense jardin.
Nous écoutons Bernard Cavalier.
Le mouvement de l'Église verte est apparu à partir de la COP21. C'est un mouvement œcuménique qui réunit les églises protestantes, catholiques, orthodoxes et d'autres mouvements chrétiens. Et dans le cadre de l'Église protestante unie, nous avons été un certain nombre à vouloir rentrer dans ce mouvement. Et nous sommes dit il y avait deux choses à envisager, la partie théorique et la partie pratique. Sur le plan pratique, comme tout bon descendant de paysans cévenols, j'aime la nature et j'aime les jardins. Et nous sommes dit la première chose pratique qu'on pourrait faire, c'est déjà arrêter l'utilisation du glyphosate dans le cimetière. Et bon, c'était pas simple à mettre en place parce que nous avons qu'un seul jardinier et que arrêter l'utilisation du glyphosate, ça impliquait un travail supplémentaire énorme. Alors pour faire face à ça, étant donné que nous n'avions pas les moyens d'augmenter le temps de travail du jardinier ou d'en embaucher un autre, nous avons créé un petit groupe d'amateurs qui sont tous des amateurs de jardin et nous nous réunissons tous les mercredis matins, nous sommes entre 5 et 10 selon les jours et nous travaillons pendant 2-3 heures au jardin du cimetière protestant. C'est un parc magnifique de 5 hectares et demi.
Ah oui.
Qui demande un entretien important. On enlève des kilomètres de salses pareilles, on abat des arbres qui sont morts, des arbres qui détruisent les tombes, etc. Enfin, on entretient ce parc avec beaucoup de plaisir. On se retrouve tous les mercredis très fidèlement avec beaucoup de bonheur. On tond régulièrement à partir de maintenant, à partir du printemps, quand ça commence à pousser, eh bien, tous les 15 jours, on est obligé de, tous les 15 jours, 3 semaines, obligé de tondre les allées, etc. Toutes les personnes qui sont là sont jardiniers amateurs, ou en tout cas, on a un plaisir immense à se retrouver. Alors, on jardine pendant 2-3 heures, après, on prend un petit apéritif ensemble, et c'est l'occasion de discussion, de rire. Enfin, vraiment, le cimetière n'est pas du tout un lieu triste grâce à ça. C'est un lieu qui devient très, très convivial. Le problème, l'Église verte modifie quand même d'une façon générale. On essaie de modifier les comportements, au moins de nos paroissiens, pour leur faire prendre conscience. Et là, actuellement, là, hier, nous avons eu justement une rencontre avec nos amis catholiques qui sont en train de lancer ce processus. Et nous allons déjà nous re-rencontrer pour essayer de faire le point un peu de ce qu'on peut faire et lancer quelques initiatives ensemble de travail en commun. Là, la Covid a quand même pas mal arrêté les processus en cours d'évolution. On avait envisagé de faire des jardins partagés. Nous avions envisagé un certain nombre de choses qui ont été complètement mises sous le boisseau depuis un an, quoi. C'est vraiment un grand lieu de convivialité.
Bernard Cavalier nous a rappelé la démarche qui a été révélatrice aussi de ces églises vertes. C'était cette conférence autour de la COP21. Mais on est aussi revenu avec cette idée œcuménique où les différentes confessions se rassemblent et retrouvent un lieu commun à partager. Alors, ici, nous étions dans ce cimetière, de ce grand cimetière avec plus de 5 hectares à entretenir. Et Christian Delors, on a aussi entendu Bernard Cavalier nous parler de ce que l'épidémie et les restrictions ont fait. Et les projets sont mis entre parenthèses. Mais là, les beaux jours reviennent. Peut-être qu'à sortir comme cela dans les jardins, ça va remobiliser les équipes et les personnes qui y sont engagées.
J'en suis sûr. Il y a ici à Nîmes un bon groupe interconfessionnel et il est bien possible qu'ils s'y remettent ensemble. Il y a quelques lieux comme ça où ils pourraient avoir des jardins partagés. Je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose au cimetière même. Au cimetière, il s'agit surtout d'entretenir, comme l'a dit Bernard. Moi, ce qui m'a frappé dans son texte aussi, c'est la joie qu'il a dit, dont il parle, de la joie de se retrouver pour entretenir. Et un cimetière, ce n'est pas un endroit joyeux. Et pourtant, là, ils évoquent le plaisir qu'ils ont à être ensemble, à partager, à prendre l'apéro. Et je me dis, ça m'a intéressé parce que ça montre aussi qu'entretenir un cimetière, ben le cimetière, c'est le lieu où on met les morts, mais est-ce que ça évoque pas la résurrection d'une certaine manière, de rendre propre, de rendre beau, voilà, c'est ce point-là. Maintenant, je ne sais pas très bien où, du point de vue œcuménique, où ça ira. Ça, c'est les différentes paroisses catholiques et protestantes de Nîmes le diront.
Guylaine Dubois, vous aviez justement engagé la conversation sur cet aspect œcuménique.
Au-delà de l'œcuménisme même, c'était plutôt l'interreligieux,
oui,
avec cette nécessité de parcours entre les religions en fait. Il y a vraiment un souci pédagogique là de traverser les religions avec son corps, avec ses pieds, avec ses mains, pour encore une fois, oui, ressentir... les effluves de chacun des textes sacrés finalement. Donc on est voilà, ces jardins interreligieux, si vous y faites référence maintenant, oui, c'était plutôt dans ce souci-là d'une pédagogie et pour ne pas oublier non plus.
Nicolas Boutier.
Oui, alors en fait, je voudrais rebondir sur deux choses. La première, en fait, il y a quelques temps assez lointain, j'étudiais l'histoire des cimetières protestants dans notre région. Et le cimetière protestant de Nîmes a une histoire assez particulière. Et c'est Bernard Cavalier, en l'écoutant, qui m'a fait penser. Quand il a été créé, c'était aussi un lieu cultivé, où il y avait des vignes et des oliviers. Et on retrouve un peu cette idée, en fait, en l'écoutant, parce qu'il y a ce côté travail au jardin, d'entretien, un peu, voilà, il faut s'y tenir, parce que tous les 15 jours, il faut tondre... Et ce rapport à ce qui s'est passé à la création du cimetière, où il y avait quelqu'un qui cultivait et qui entretenait le cimetière en faisant pousser des oliviers et qui récupérait les gains de ses récoltes. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la résurrection qu'évoquait Christian. Et dans l'article biblique du dossier, ce qui m'a frappé, en fait, c'est la résurrection, enfin, l'annonce de la résurrection, elle est faite dans un jardin. Et donc, il y a peut-être cette image qui revient régulièrement, à la fois de la végétation qui revient chaque année, donc un peu image de résurrection, et puis le Christ qui vient annoncer qu'il est ressuscité, et on le prend d'ailleurs pour un jardinier.
Christian Delors.
Je ne sais pas si on en parle beaucoup dans le dossier, je ne me souviens pas, mais ce qui me paraît important aussi, c'est l'acte militant de cette équipe, au moment où beaucoup s'interrogent sur l'utilisation de ces désherbants chimiques, parfois très dangereux. Là, il y a eu le désir de bien montrer qu'on s'inscrivait il y a un acte militant dans le fait de ne refuser d'utiliser du glyphosate. Et je crois que c'est une vocation de l'Église aussi de rappeler cela. Pas simplement avoir un beau jardin, mais un jardin qui soit aussi dans le sens du propre écologiquement.
Il était question d'ailleurs de salses pareilles. Oui. La salse pareille dans les Cévennes, on la connaît bien. C'est elle qui rend la forêt un peu bartasse, impénétrable.
Pas seulement la nourriture des Schtroumpfs. Hein.
C'est pas seulement, voilà, cela. Mais c'est peut-être aussi l'idée que il faudrait peut-être en laisser un petit peu aussi de la salse pareille, parce que justement, c'est aussi cette nature. Indompté finalement, en sauvagé, il y a aussi, après la COP21, il y a aussi ce mouvement qui monte, oui. C'est de ré-ensauvager un peu nos environnements. Est-ce que vous pensez que les communautés, les églises sont sensibles à ce discours-là maintenant?
Nicolas Aboutier.
Non, mais c'est intéressant parce que s'il parle de la transparence, c'est qu'elle revient chaque année. Donc finalement, ils ne la détruisent pas. Il la dompte un petit peu. Et bien, on retrouve ça d'ailleurs dans l'article d'Alain Pelletier, dont on a entendu l'interview tout à l'heure. Il parle des indésirables, en fait, ces herbes qui poussent dans le jardin, là où on ne veut pas, quand on ne veut pas. Et finalement, il apprend à faire avec. Donc, elles ont aussi leur intérêt. Bon, de temps en temps, elles gênent, elles embêtent, elles viennent plus vite qu'on le voudrait, mais il faut faire avec, il faut les regarder pousser, et elles peuvent aider aussi le jardinier à mieux développer son jardin.
Délie Muller.
Oui, non, c'était juste que on n'a pas encore employé, on n'a pas encore parlé, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais Bernard, je crois, en parle dans son témoignage, voilà, de l'Église verte. Quand on parle d'engagement, je crois que depuis un certain temps, quand même, l'Église s'est engagée et s'engage maintenant de plus en plus, puisqu'au niveau de chaque paroisse et dans nos paroisses, j'imagine, dans l'Hérault, le Gard, dans notre région, je crois que de plus en plus d'Églises s'engagent dans ce mouvement-là, essayent de faire des choses locales, alors que ça soit donc au cimetière de Nîmes, dans les presbytères, autour des presbytères, dans les discussions. Et je crois que c'est quand même quelque chose de très, très intéressant dans cet engagement que nos églises ont. Voilà. Et donc, je crois que c'était aussi important qu'on puisse, nous, aborder ce problème de l'Église verte. Même s'il nous faudrait beaucoup de temps, on pourra peut-être un jour faire une autre émission, Voix d'Église, là-dessus, en présentant des projets un petit peu plus concrets de chaque paroisse. Ça sera à voir, pourquoi pas.
Et que... Ces projets, ils sont un peu discrets pour parfois. À Alès, par exemple, on a appris qu'il existait un petit groupe qui s'était mis en place, mais il faut vraiment chercher à les découvrir, ces petites initiatives. Est-ce que c'est le cas à Nîmes ou Montpellier? Est-ce qu'il y a une visibilité de ce mouvement autour de l'Église verte?
À Nîmes, il y a tout un travail quand même écuménique, justement, avec catholiques et protestants, là, qui ils ont des projets, je ne sais pas où ils vont aller, mais enfin, ça commence à avancer.
Oui, mais merci à tous et à toutes. Guylaine merci. Dubois à FM+, à Montpellier. Délie Muller à RGO, Radio Brie Ouverte à Alès, Christian Delors et Joël Baumann à Alliance Plus, et Nicolas Boutier, rédacteur en chef du CEP, dossier autour duquel nous avons discuté aujourd'hui des jardins, nos paradis terrestres. Nicolas Boutier, quel sera le prochain dossier du CEP, s'il vous plaît?
Pâques, une libération.
Voix d'Église. Au revoir à toutes et à tous.
Et à toutes et tous. Au revoir, à bientôt.
C'était Voix d'Église, l'émission collaborative des radios Alliance Plus, FM Plus et Radio Grille Ouverte.